Une vie, une œuvre, c'est samedi, 16h, c'est tout de suite. François Maspero, 1932-2015. Aujourd'hui, une vie, une œuvre, c'est l'histoire de celui qui était éditeur, voyageur, écrivain, militant, traducteur et reporter. De celui dont la librairie a fait faillite à force de fermer l'œil sur les vols militants des clients révolutionnaires. De celui qui a lutté pour la décolonisation, détesté la guerre, fait un détour par le gauchisme, dénoncé la torture et dont la famille était résistante. De celui qui a été censuré et qui a fini par plonger dans ses souvenirs. Sur les images, on le voit jeune, cheveux bouclés et lunettes années 60 avec un faux air de Godard. Ailleurs, on le voit moustachu, le cheveu plus négligé, la clope au bout des doigts, on le dirait sorti de l'usine. Plus âgé, il arbore la casquette de marin, à moins que ce ne soit celle des capitaines ou des mariniers, et il pose en veste de toile épaisse, l'air toujours un peu sombre. Souvent, il a l'air comme retranché, le crâne s'est dégarni un peu tôt, les cheveux ont blanchi vite. Parfois, il esquisse un sourire, le visage posé sur sa main, mais cela semble presque douloureux. Sur une des dernières photos, une amie hilare lui ajuste son écharpe autour du cou. Et un an tout juste après sa mort, on se dit que ça a dû lui faire du bien. Sur la photo, il rirait presque. Alors prêtez l'oreille à François Maspero, un documentaire de Élise Gruot, réalisé par Annabelle Brouard.
Je crois que, d'une certaine manière, pour moi, Camus, c'est un veilleur. Voilà, c'était un éveilleur, bien sûr, aussi. Mais il y a cette notion qu'il faut rester toujours en veille. Moi, j'ai toujours dit simplement, quoi, Sartre m'a appris la liberté. Héritage ou pas, c'était notre destinée était à chaque instant à construire et qu'on avait toujours le choix.
On voyage dans l'espace et c'est aussi un voyage dans le temps. L'espace, nous le parcourions lentement au rythme des bus essoufflés, de zone en zone, de ville en ville, de village en village. L'espace de la Bosnie, morcelé à l'image d'un monde dont j'ai cru longtemps qu'un jour il ne serait plus ainsi et qu'il est de plus en plus. Continent, monde pris dans un réseau gangréneux et toujours plus serré de frontières, j'ai déjà écrit ailleurs ce sentiment qu'il ne me quitte pas. Mais l'espace est toujours double, car il y a toujours notre propre espace, celui que partout chaque être humain promène avec lui, bon gré mal gré, comme une bulle dans une bulle plus grosse. Crever toutes les bulles, c'est le défi. Certains disent que c'est le début de l'utopie. Très mauvais, l'utopie, disent-ils aussi. On sait où ça mène. Le sage reste dans sa bulle. Et le temps, il surgit de chaque pierre rencontrée, de chaque regard croisé. Du paysage monte un brouhaha de rumeurs séculaires. Oh là là, c'est magnifique ces livres. Hein? Quelle histoire, Maspero, mon Dieu.
Michel Piccoli, qui était-il François Maspero pour vous ?
François Maspero, ça a été un des hommes absolument passionnés, passionnels, extravagants, très sympathiques, très drôles et très sévères en même temps. Extraordinaire. Il faut pas lui dire ça, hein, parce que si on lui dit ça, il dit « ça y est, je suis foutu ».
Libraire et éditeur, traducteur et écrivain, François Maspero est une figure emblématique du monde éditorial des 50 dernières années. Rares sont les éditions associées à un nom qui porte une identité si forte, à laquelle elles n'ont jamais dérogé. Rares sont les éditeurs qui ont aussi créé une œuvre littéraire personnelle, aussi intime que tournée vers le monde. François Maspero est mort le 11 avril 2015 à l'âge de 83 ans. de la Seconde Guerre mondiale qu'il raconte dans ses récits personnels aux guerres coloniales que ses éditions ont invité à penser différemment, en passant par les débats d'une société en plein bouleversement, Maspero a tracé une voie nouvelle dans l'histoire du livre et de l'édition de sciences humaines. Sa librairie et ses éditions ont été un repère pour toute une époque et une génération qui entrait en politique. Et lorsque cette voie fut poursuivie par d'autres, dans les éditions La Découverte, Maspero a trouvé, toujours dans le compagnonnage des livres, sa propre voie d'auteur. Écrivain voyageur, traducteur, conteur, une vie d'engagement pour et par le livre. Une vie, une œuvre, François Maspero, passeur de présent.
Pour moi, ça a été celui qui a publié les textes de Che Guevara, par exemple.
Annie Morvan.
Qui était inédit en France.
Éditrice de François Maspero au Seuil.
Il n'y a pas eu de plus belle maison d'édition, de maison d'édition plus engagée, plus curieuse, plus cosmopolite, plus combative que celle de François Maspero dans les années 60 et 70. C'était à une époque de conflit. Enfin, une grande partie de la France était très engagée. Je veux dire, la gauche était très importante. C'était même avant mai 68. Il y a eu la guerre d'Algérie, il y avait la guerre du Vietnam, il y avait les guérillas en Amérique latine, la décolonisation africaine. Ensuite, dans les années 70, la dissidence dans les pays de l'Est. Donc, c'était la seule maison d'édition qui vraiment publiait des textes qui concernaient le présent.
Si je publiais des bons bouquins, je ne serais pas du tout l'éditeur que je suis. Je serais un institut d'études marxistes qui définirait tous les concepts scientifiquement et théoriquement et qui, une fois les concepts définis, les utiliserait dans des livres qui seraient une perfection. Une telle perfection que je te dis qu'il n'y aurait plus qu'à sortir le livre pour que la révolution soit faite. Ce serait merveilleux. Bon, bah, il se trouve qu'effectivement, petit à petit, on publie par tâtonnement des mauvais bouquins, des bons bouquins, des moins bons. Bon, et c'est comme ça, on se trompe.
Je pense qu'il avait toujours eu envie d'écrire. Et que d'avoir publié les textes des autres, c'était en quelque sorte un peu parce qu'il pensait qu'il n'était pas capable, lui, d'être un créateur.
Tout en moi affirme que je suis né le 24 juillet 1944, à l'âge de 12 ans et demi. En guise de sage-femme, je vois, puisque j'ai ce privilège de me souvenir de ma venue au monde, le visage d'un agent de la Gestapo, le cri de la naissance, celui qu'en cet instant j'ai refoulé, reste enfermé en moi. Prisonnier, il a vibré et résonné au long des ans. Avant, il y eut, je pense, du soleil. J'ai eu depuis, comme je le souhaite à tous, mes jours, mes années de soleil. Mais quelque chose me dit toujours que ce n'est pas le même que ce soleil-là. Celui dont je sais seulement qu'il brillait avant ma seconde naissance, qui ne fut pas naissance à la vie, mais naissance à la mort.
Les abeilles et la guêpe, 2002.
Dans cette famille Maspero, qui était une famille de la très grande bourgeoisie intellectuelle, hein, le grand-père était un grand égyptologue, le père un éminent sinologue, dans cette grande famille de grande bourgeoisie, on ne parlait jamais de soi. Donc, il y a toujours eu chez François Maspero une grande pudeur et une grande retenue à parler de lui-même. Mais cette chose-là, je veux dire, ce traumatisme originel, si je puis dire, cette confrontation brutale à l'histoire, dont la conséquence a été une sorte de condamnation à l'engagement et à la résistance, il fallait qu'il la raconte. Il ne pouvait pas faire une autobiographie, mais c'est quand même son histoire et l'histoire de sa famille. Et toute sa littérature, en fait, est pour moi une écriture de soi. Il est partout présent dans ses livres. Le sourire du chat, qui est le premier livre qu'il ait écrit et qu'il ait apporté au Seuil, c'est l'histoire de sa jeunesse et de son adolescence, de ce qu'il appelle lui-même sa naissance à la mort, puisque lorsqu'il avait 13 ans, La Gestapo est venue dans la maison familiale de Milon-la-Chapelle, a arrêté le père, la mère, et le père a été déporté et est mort au camp de Buchenwald. La mère de François a été déportée à Ravensbrück, elle en est revenue vivante. Et le frère aîné, son frère Jean, qui était engagé dans la résistance, a été tué dans la résistance.
À ce moment-là, comme il le dit lui-même, sa jeunesse n'aura plus rien de normal.
Julien Hage, historien.
Et il va se construire à côté d'une mère qui était un personnage tout à fait considérable hein, au camp de Ravensbrück, à côté de Germaine Tillon ou de Geneviève de Gaulle-Antonioz, et qui va, elle, rentrer dans une grande souffrance et dans un grand exil à son retour des camps. Et c'est là le premier Maspero passeur, il est peut-être là aussi, dès ce moment-là, avant même d'être éditeur, de vivre dans cet enfermement, dans l'indicible.
De la vie et de la mort de mon père au camp, je sais des choses. Mais j'ai appris tôt à me méfier des survivants et de leurs témoignages. Les premières années de l'après-guerre, j'ai vécu dans une contradiction. D'une part, on jugeait que j'étais trop jeune. J'avais 13 ans en 1945. Trop jeune pour supporter la réalité, disait-on. Et il fallait me tenir à l'écart pour m'épargner. Trop jeune aussi pour la comprendre. Et je me rappelle avec un sentiment d'injustice, une réflexion de ma tante qui sonnait comme un reproche quelques jours après l'annonce de la mort de mon père. Oh François, vous savez, à son âge, la vie continue. Ainsi, quand des rescapés des camps venaient rendre visite à ma mère, c'était comme si je n'existais pas. Je vois toujours Julien Quint, conservateur de la Bibliothèque nationale, à qui j'étais venu ouvrir la porte de l'appartement, me demander si ma mère était là, passer sans m'accorder un regard et s'enfermer avec elle. Mais d'autre part, ma mère ne pouvait s'empêcher de me parler de sa propre vie au camp. Ses souvenirs sonnaient aux oreilles des autres comme un rabâchage d'anciennes combattantes. Il ne comprenait pas, ne voulait pas comprendre. Moi, par la force des choses, j'étais là, toujours présent et attentif, son seul confident. Elle souffrait atrocement, dans son âme et dans son corps. Et son entourage, tout en lui exprimant la sollicitude que l'on doit à tout veuvage ordinaire, était surtout préoccupé de retrouver un confort d'avant-guerre qui se faisait désirer. Je crois sincèrement que ma mère a été courageuse au camp. Les abeilles et la guêpe, 2002.
La guerre, les conflits, la résistance, ça traverse toute son œuvre. Dans cette confrontation brutale à l'histoire qui s'est passée lorsqu'il était très jeune, lorsqu'il avait 12 ans, 13 ans, il a été condamné à cet engagement, condamné à résister. Et il n'a jamais cessé de le faire, jamais.
Maspero, c'est quelqu'un pour qui les mots ont un sens. Ça paraît bizarre à dire d'un éditeur, mais c'est ça. Les mots ont un sens, les livres ont un sens.
Chris Marker,
la moyenne 1960. Mesure, c'est tous ceux pour qui le phénomène Maspero est unique, indispensable. Plus important pour l'édition française que tous les pourvoyeurs de prix littéraires. Mais si vous lui dites ça, vous allez vous faire foudroyer d'un œil bleu qui devient noir, assorti d'un « c'est bientôt fini, non ?»
En 1956, j'ai eu la possibilité d'acquérir une librairie qui s'appelait La Joie de Lire. À ce moment-là, c'était la guerre d'Algérie. On ne pouvait pas rester indifférent à cette idée très simple qui est qu'un peuple qui en opprime un autre n'est pas un peuple libre.
François Maspero, 2013.
Comme l'a dit Saint-Just. L'édition s'est imposée lorsque il semblait que, avec la censure, il n'y avait pas de possibilité de publier des textes, sauf ceux que publiaient les éditions de Minuit, qui étaient une dénonciation plutôt morale de la torture. Il n'y avait pas de possibilité de publier d'autres textes sur deux sujets qui me tenaient à cœur. Il y en avait un, c'était « Qui est cet ennemi que l'on qualifie d'assassin, de terroriste, etc. qui est le Front de Libération Nationale Algérien ?» Et l'idée aussi de la nécessité de l'insoumission, puisque je me suis trouvé avoir signé le manifeste pour le droit à l'insoumission.
François Maspero, c'est un lieu. Avant d'être un homme, c'est un lieu.
Edoui Plenel, journaliste.
Ce lieu, c'est une librairie qui était comme notre université populaire. La joie de lire, c'était le monde. Non seulement un monde géographique, mais un monde intellectuel, un monde humain, des paysages humains qui étaient là, des langues, des cultures, des réalités politiques différentes. On avait le monde entier.
Il était au cœur d'un quartier, le quartier latin, qui n'était pas le quartier touristique qu'on connaît aujourd'hui, mais qui était encore un quartier populaire, qui était le quartier, un quartier d'immigration. L'îlot Saint-Séverin, tout proche, était le lieu de vie d'une communauté algérienne importante. Il y avait le cabaret El Jazair, qui était plastiqué pendant la guerre d'Algérie, comme sa librairie mitoyenne par l'organisation de l'armée secrète des partisans de l'Algérie française. Et puis, des rencontres avec les intellectuels, journalistes, écrivains de la négritude. Et ce quartier-là, c'était le quartier d'exil de ces intellectuels et militants coloniaux. De Cheikh Anta Diop jusqu'à Kabila, qui a habité non loin de la rue des Écoles.
Depuis quelques jours, on s'est beaucoup interrogé sur le sens de ce congrès.
Ce premier congrès des écrivains et artistes noirs, c'est un très grand départ pour moi, parmi d'autres. Mais si, pour reprendre toujours la même expression, je me suis ouvert définitivement au vent du large, c'est bien ce jour-là.
Des Sénégalais et des Américains du Nord, des Dahoméens et des Antillais, des Nigériens et des Malgaches. C'est un fait que la plupart des pays noirs vivent sous le régime colonial.
Le poème de Césaire dit « Ce que je veux, c'est pour la faim universelle, pour la soif universelle, l'assommer, libre enfin, de produire de son intimité close la succulence des fruits. » Vraiment, j'ai vu jaillir devant moi toute une culture. Et une culture qui était à l'époque encore extrêmement, je dirais pas bafouée, mais sous-estimée, sinon niée.
Il y a un grand nombre d'auteurs qui vont le rejoindre, des auteurs qui étaient publiés par ailleurs avant et qui vont être publiés aux éditions Masmero, mais pour publier autre chose. Frantz Fanon, qui était publié au Seuil jusqu'à présent, des gens comme André Mandouze, chrétien de gauche, qui vont venir à lui. Bientôt, les communistes alternatifs, en pleine déstalinisation. Bientôt également, l'avant-garde du mouvement étudiant. Et enfin, tous les dirigeants de ces mouvements colonisés que François Maspero va publier avec un refus de sectarisme extraordinaire. Parce qu'à l'époque, ça ne faisait pas de publier à la fois Marx et Togliatti, de publier à la fois Ho Chi Minh et puis Che Guevara. Il y avait des sectarismes incroyables. Et lui, il va tout à fait briser ça.
François Maspero a publié Frantz Fanon dès la première année d'existence de sa maison, en 59.
François Gès.
C'était l'enceinte de la révolution algérienne, qui avait donc 5 ans.
Ancien directeur des éditions La Découverte.
François Maspero avait repéré tout de suite la puissance de Fanon, qui à l'époque était en Algérie depuis quelques années, où il avait exercé comme psychiatre à l'hôpital de Blida, et qui avait rejoint le FLN en 58. Et il avait publié Peau noire, masque blanc en 52 au Seuil. Et donc tout de suite, François Maspero a vu que c'était un auteur extrêmement puissant. En 61, sortira Les damnés de la terre, quelques jours avant que Fanon meure, malheureusement, d'une leucémie à 36 ans de façon extrêmement prématurée. Les damnés de la terre parlent des conditions de l'émancipation. Aujourd'hui, après 30 ans de mondialisation néolibérale, le système a essayé de détruire les outils qui permettent l'émancipation, qui permettent le pouvoir d'agir collectif. Et d'une certaine façon, Fanon, qui était engagé dans la lutte anticoloniale en Algérie, il avait compris que se libérer de la colonisation, se libérer de l'oppression coloniale, c'était redonner aux hommes, aux femmes opprimés, un pouvoir d'agir justement collectif. Sa double culture, on peut dire, enfin triple d'ailleurs, littéraire, poétique, psychiatrique et politique, faisait qu'il a compris cette connexion toujours très complexe entre l'individu et l'engagement de l'individu et sa place dans un collectif. Et que l'un est inséparable de l'autre. Et c'est tout ça qu'il a théorisé dans ses écrits et qui fait sens plus que jamais aujourd'hui. Il n'a pas fait de l'édition pour faire de l'édition. À l'époque, c'est vrai que l'édition française fonctionnait beaucoup selon des canons qui avaient été établis plus d'un siècle auparavant. Simplement, François Maspero, il va se saisir du livre, de l'objet livre, comme un objet pour transmettre un combat politique.
Une des clés pour bien comprendre le regard de François Maspero, c'est que il n'a jamais été stalinien. Il n'a jamais été intolérant face à la critique des indépendances. Il a très vite accepté des livres qui montraient les échecs possibles des indépendances, leur prévarication, leur confiscation par de nouvelles classes dirigeantes qui épousaient, au fond, les réflexes de la domination précédente. Ce Maspero-là, tout en accueillant toute l'ébullition de l'époque, n'a épousé aucun de ces faux dieux.
Mémoire de Géronimo. Nazi. Carnet de guerre de Louis Bartas Tony Che Guevara.
Palestine.
Collection. Collection. Théorie. Cahiers. Collection. Voix.
Textes à la lettre.
Collection. Éthique. Lutte
les
sociale.
Planètes. La découverte.
Revue. Sur l'alternative.
Revue tricontinentale.
Revue. Partisan.
Élise
Rosa Luxembourg.
L'année de la Terre.
Collection. Voix.
Avortement. Droite fait penser chez les
l'état d'une
géographie. Ça sert d'abord sur la tourbe.
Revue
sur la dictature du prolétariat.
La torture par l'infini.
Étienne Balibar.
Mémoire de Géronimo. Nazi. Carnet de guerre de Louis Bartas Tonnelier.
Palestine, année zéro.
Il lance deux choses à la fin des années 70. Il lance la collection qui va donner le nom à la maison d'édition qui va lui succéder, La Découverte, et qui reprend toutes sortes de textes sur la conquête, sur au fond le début de la projection de notre continent sur le monde. Comme s'il avait le pressentiment que c'est ça qui allait rentrer en crise. Il réédite Las Casas, il réédite les textes de Colomb, il réédite tous ses textes sur la destruction des Indes. Donc il revisite ce moment qui est, en fait, il y a 5 siècles, le vrai début de la mondialisation. Et au fond, c'est comme si il sentait qu'il fallait revisiter tout cela, rappeler toute cette mémoire des vaincus, car ce monde-là, désormais, était en branle. C'était prémonitoire. La question indienne n'avait pas surgi au plan politique en Amérique latine, comme elle surgira avec Evo Morales, avec Chavez, avec tout le surgissement dans la renaissance des gauches latino-américaines de ceux qui étaient exclus du banquet des indépendances. Et puis d'un côté, il fait ça, et de l'autre côté, il fait l'alternative, donc bien avant la monopolisation droitière, j'allais dire, de ce qui se passait à l'est de l'Europe, où très logiquement, avec ses engagements anti-bureaucratiques et anti-staliniens, il traite, il accueille et il dirige. Hein, la revue est dirigée. Et l'alternative, je pense qu'elle a fédéré tout un réseau.
Tribunal d'instance de Paris. Audience du 8 juillet 1971. Attendu qu'il résulte
dans le dossier des 121, de interdit et saisi.
Les harkis à Paris, interdit et saisi.
Les damnés de la terre, préface de Jean-Paul Sartre, interdit et saisi.
Le nommé Maspero François a sciemment reproduit l'écrit intitulé
La revue
le petit
tricontinental,
livre rouge des écoliers et des
la cause du
monde,
interdit,
interdit, main basse
et saisi. La révolution algérienne par les textes, interdit et saisi.
Le tribunal condamne le nommé François Maspero à la peine de 2 mois d'emprisonnement et à 18 000 francs d'amende.
Il sera beaucoup attaqué, beaucoup calomnié. La librairie La Joie de Lire sera plastiquée par l'organisation de l'armée secrète. Les vitrines seront brisées à de multiples reprises dans les années 70. François Maspero aura affaire à toutes les rigueurs de la censure d'État qui voudra lui briser les reins. Dans les années 70, avec l'article 14, Raymond Marcellin, le ministre de l'Intérieur chargé du retour à l'ordre après 68, va pouvoir frapper, briser les reins des éditions Maspero sans jamais avoir à justifier par des procès, en frappant pour la provenance étrangère des textes, parfois d'une manière complètement farfelue. On pense à Mongo Betty qui était agrégé de grammaire avec la nationalité française, et à chaque fois des saisies, 18 000 francs jusqu'à 300 000 francs, c'est à peu près 300 000 euros d'aujourd'hui. Et donc là, François Maspero sera forcé de baisser pavillon. Après, dans tous ses adversaires, de droite, de gauche, il y aura aussi ceux qui s'acharneront à piller sa librairie selon la mode de l'époque, de ce qu'on appelait le vol révolutionnaire, de la redistribution des richesses pour quelqu'un qui serait accusé de se faire de l'argent sur le dos de la révolution. Ça sera quelque chose qui restera une souffrance pour lui, de voir que la librairie qu'il avait construite, lui, et énormément de collaborateurs, puisque c'est une librairie qui comptera jusqu'à 40 salariés, puisse sombrer de cette manière-là au mi-temps des années 70. Ça restera une vraie blessure pour lui.
Il y a une catégorie d'individus qui pensent que c'est mieux de voler chez Maspero, parce que Maspero se fait du fric avec la révolution, que donc c'est révolutionnaire de récupérer le fric que Maspero se fait avec la révolution. Et là, je pense vraiment d'ailleurs que les trois quarts ou 99% des types qui font ça sont des types pour qui la révolution, ça consiste à voler les livres chez Maspero.
Pourquoi est-ce que les éditions Maspero s'arrêtent en 1982? C'est-à-dire un moment où théoriquement,
j'en avais
vous
marre.
Pouvez plus être inculpé.
j'en avais marre. Mais...
François Maspero, 25 septembre 2014. Entretien donné à Mediapart.
Il y a eu une période de transition. Émile Kopferman est parti. J'avais engagé des camarades qui ont finalement renoncé. Donc, à ce moment-là, est arrivé François Gess. Et j'ai pensé qu'il pouvait remettre en route, il pouvait pratiquement me succéder même. Et puis, il m'a tellement bien succédé qu'il m'a succédé.
40 ans après, des textes qui ont été publiés il y a 40 ans sont toujours bien vivants.
François Gèze.
C'est plus qu'un fond, quoi. C'est cette continuité politique qui, à mes yeux, reste absolument essentielle, qui, je pense, le cœur de l'engagement qui avait été celui de François Maspero, de ses éditeurs et de ses auteurs. Il y a une partie des titres qui, à l'époque, ce qui était finalement le plus lié au gauchisme 68-art, qui a de fait échoué, qui, à la fin des années 70, c'est un échec. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'autres titres qui renvoyaient à des luttes comme le féminisme, comme la pédagogie, comme les nouvelles écoles psychiatriques, etc., etc., et en sciences humaines également, qui eux, en revanche, sont restés et qu'on a régulièrement publié, réédité, et jusqu'à aujourd'hui.
Garder un jour pour quand il n'y en aura pas. Une nuit aussi pour quand il y en aura. De la même façon, je me donne beaucoup de mal pour ne pas crier ou pleurer. Car les yeux ont, indépendamment de nous, leur faiblesse. Poèmes humains, César Vallejo. Traduit par François Maspero.
À l'intérieur de mes éditions, j'ai toujours donné une importance à la poésie. Je pense que c'était un élément majeur de la poésie, à l'imagination, et voilà. Je dis toujours, et je suis convaincu qu'un être humain qui ne rêve pas, qui n'a pas de rêve et qui ne se reprojette pas dans des rêves, n'est pas un être humain. C'est aussi simple que ça. Mais je pense que c'est là que ça se passe. Et je fais une très très grande différence entre le rêve et l'utopie. Parce que l'utopie, elle est porteuse de diktats, d'exclusion, de beaucoup de choses. Mais le rêve, c'est déterminant. C'est impossible de vivre sans rêver.
Ya se va para los cielos ese querido angelito a rogar por sus abuelos, por sus padres y hermanitos. Cuando se muere la carne, el alma busca en la altura la explicación de su vida.
Là où j'ai été le plus heureux, c'est le moment où je me suis mis à écrire des livres, parce que quand on écrit des livres, on est tout seul.
Cuando se muere la carne, el alma se queda.
C'est une souffrance d'écrire. Il y a un très beau texte d'Orwell que j'ai lu il y a très longtemps. Orwell avait un mal fou à écrire. Il écrit difficilement. Il disait que ça a été terrible, qu'un accouchement à côté, ça devait être rien. Enfin, il le dit vraiment comme ça. Et je pense qu'effectivement, il y a un découragement qui vous prend à chaque page qui peut être mortel.
Une fois qu'il quitte les éditions, c'est-à-dire en 1982, il écrit. Et parallèlement, il traduit. Et la traduction, je crois qu'il avait déjà traduit quand il était éditeur. Hein. Mais parallèlement, la traduction est un travail sur la langue, est un travail sur les mots. Et c'était une question très importante pour lui. Est-ce que les mots ont un sens? C'est d'ailleurs le titre du film de Chris Marker sur François Maspero. Est-ce que les mots ont un sens? Et qu'est-ce que l'on dit en écrivant? Et cette interrogation-là, elle est présente dans son activité de traducteur. En fait, l'entrée dans l'imaginaire des mots, c'est d'abord son propre travail d'écriture, mais qu'il a fait toujours conjointement avec celui de la traduction. Et je pense que l'un et l'autre étaient complémentaires dans le travail d'écriture lui-même, non pas dans ce qu'il voulait dire, parce que ce qu'il voulait dire, il le disait dans ses propres livres, mais sur le travail d'écriture. Et François était un de ces très rares traducteurs qui comprennent qu'une traduction, ça n'est pas seulement restituer un sens, que ce n'est pas seulement restituer une forme littéraire. Parce que le texte d'un auteur, c'est du son, du souffle, c'est une respiration, c'est un rythme, et c'est cet ensemble-là qui fait qu'un écrivain a une écriture singulière. Et que le travail du traducteur, c'est de restituer ce que un auteur fait à sa langue. Et que son travail de traduction était aussi un travail de réécriture.
Peut-être irai-je voir, l'été prochain, Francesco Biamonti dans son village des confins de la Ligurie, sillonné la nuit par les ombres des fugitifs de toute l'Europe qui n'en finissent pas de marcher et d'espérer. J'irai le voir parce que j'ai aimé traduire ses livres et que j'aime qu'il me parle de la lumière méditerranéenne, des lumières plutôt, qui se chevauchent et se conjuguent, celle des courbes suaves et de la douceur de vivre, celle de l'austère rigueur des lignes tracées par le soleil à l'heure sans ombre, et celle aveuglante du sang des tragédies de Sophocle. Parce que Francesco, comme ses oliviers, comme sa terre et ceux qui l'habitent, veille en écoutant la musique du vent sur les terrasses. Et si mêlant, la musique du quatuor pour la fin du temps venant de sa maison aux murs épais, maison de pierre telle que les hommes les bâtissent depuis 2000 ans tout au long de cet arc immense qui va de Gibraltar à la mer Noire, en espérant qu'ils pourront y abriter un bonheur précaire, et telle qu'ils les reconstruisent depuis des siècles, après les tempêtes et les guerres, en espérant encore. Les abeilles et la guêpe, 2002.
Je sais qu'il s'est senti très proche de l'italien Francesco Biamonti. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il a traduit Biamonti au moment où il écrivait lui-même un de ses romans, Le Temps des Italiens. Et que la traduction de certains auteurs ont nourri sa propre écriture. Dans Le Temps des Italiens, certainement, François doit quelque chose à Biamonti dans la façon de décrire la lumière de la Méditerranée, la lumière de la mer, le vent, les paysages. François s'est nourri de ces traductions. Et de la même façon, le livre de John Reed, La guerre dans les Balkans, il a traduit le livre de John Reed en même temps qu'il rédigeait son propre livre, Balkan Transit. La traduction du livre de John Reed à ce même moment-là lui a permis de trouver sa propre écriture pour Balkan Transit. Donc il y avait vraiment une interpénétration très importante entre la traduction et l'écriture.
Joyce.
Oui.
Tu ne dors pas?
Non.
J'ai fait un rêve. On était tous les deux sur le bateau.
Moi aussi.
Moi, quand j'étais petit, je voyais des goélettes et on les voyait de la maison. Je le regardais filer grand large, remonter le vent en piquant lourdement du bout dehors. Avec la grosse lorgnette de cuivre de mon père, on explorait aussi les cratères de la Lune. On suivait le moindre mouvement à bord. Une dizaine de matelots s'affairaient, comme dans un film muet. Des formes précises, que parfois la chaleur de l'air faisait cependant un peu trembler. Aujourd'hui, les tankers venus de l'horizon changent le cap et s'approchent.
Pas dormir, j'entends des bruits.
Rien ne bouge à bord.
La plage noire de Michel Piccoli, adapté du roman de François Maspero.
La plage noire, c'était un livre que j'avais, auquel j'avais pensé parce que j'avais été profondément choqué par le rejet de la France des étrangers. Et là, il s'agit en plus d'un étranger qui est venu en exil en France, qui a toujours travaillé pour son pays et qui, quand il se retrouve après dans son pays, ne peut pas y vivre et la France lui refuse l'accès.
D'or.
Une histoire.
Dans les villes de l'exil, tu te souviens, nous parlions de l'avenir. Il éclairait notre attente, nos nuits étrangères.
Recrudescence de l'agitation Chocor à propos du projet de loi Une Nation, Une Langue.
Mais je pense que la notion d'exil est inscrite en moi justement par cette expérience de l'après-guerre.
c'est-à-dire d'abord d'être le survivant. Je ne me suis jamais pensé comme une victime, parce que je pense que ce que ma famille a fait ne me donne pas un statut de victime. Nous savions ce que nous faisions, même moi je savais ce que nous faisions, même à mon âge. Et aujourd'hui c'est quand même impensable de dire que je suis fier que mon frère est descendu pratiquement tout seul des officiers allemands dans la rue en 1944, parce que c'est du terrorisme. Mais je ne sais pas, je ne peux pas renier ça. Il y a quelque chose comme ça qui me situe dans un exil, une sorte d'exil intérieur, que j'ai vécu alors très très intensément pendant la guerre d'Algérie, parce que j'étais quand même un des rares, on n'était pas nombreux, et j'étais désigné dans la presse, et avec beaucoup de force, et dans la presse, pas seulement dans la presse de droite, ou d'extrême droite, j'étais désigné comme l'individu qui, du fond de sa tanière, tapis dans le fond de sa librairie, tirait dans le dos des soldats français. Remarquez, c'est un exercice un peu compliqué, mais c'était comme ça que ça se présentait. Cette notion d'exil, je l'ai eue à tel point que je me disais, mais je ne veux plus vivre en France, ça n'est plus mon pays, ça n'est pas le pays pour lequel mes parents et mon frère ont lutté, ça n'est pas ce pays-là. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre sur la plage noire, parce que il y avait cette notion de quelqu'un qui ne trouve pas sa place. Et d'une certaine manière, je pense que j'ai jamais trouvé ma place.
La plage noire, c'est peut-être le plus universel des romans de Maspero, puisque, contrairement aux autres, on ne sait pas où se situe le livre. La date n'est pas donnée. Simplement, la seule indication, c'est un pays qui sort d'une dictature et qui retourne à la démocratie. Mais une démocratie qui n'est pas gagnée. Parce que dans la plage noire, le mal rôde toujours. Et le personnage de la plage noire, qui est donc un personnage qui a été exilé pendant très longtemps en France, quand il y avait la dictature dans son pays, et qui retourne dans son pays quand la démocratie revient, il y retourne avec sa fille, c'est un personnage qui n'est pas le bienvenu chez lui. Mais, à la différence des personnages des autres livres, il n'y est pas le bienvenu, non par son action pendant ces années d'exil, résistance, édition, etc. Mais pour son rapport au monde, par ce qu'il est lui-même, par l'homme qu'il est. Il y a un pas de franchi dans la littérature. On passe à quelque chose qui est plus abstrait et totalement universel. Michel Piccoli, d'ailleurs, avait pris pour faire un film. Et c'est aussi un livre d'une rare mélancolie, parce que, bien évidemment, c'est le livre du désenchantement d'un homme qui a lutté toute sa vie et qui s'aperçoit que la lutte n'est jamais finie, que le combat n'est jamais terminé. Il y a une sorte de mélancolie de l'histoire.
Je suis un fauteur de tachycardie. Quelqu'un qui ne veut pas partir, quelqu'un qui ne veut pas rester. Tel que vous me voyez, je suis un poète qui cristallise en lui la débâcle de son époque, de son pays et de sa vie. Alors pardonnez-moi si mes rêves sont pleins de traques policières et d'amis emprisonnés. Pardonnez les cauchemars où je fuis en volant avec la légèreté d'une centrale sucrière déguisée en épouvantail à moineaux et en enfant en spadassin et en cathédrale. Admirez que pour assumer le monde où je vis, j'empoigne seulement cette plume. Poème de Raoul Rivero, traduit de l'espagnol par François Maspero.
La photo m'intrigue. Qu'est-ce qui fait que, avec un appareil totalement matériel, quelque chose de totalement mécanique, on arrive à faire une œuvre d'art? Pour moi, ça reste un mystère. Le mystère, il passe, on le sait, par le regard. Le regard qui change à chaque fois. Je n'ai pas résolu cette énigme.
Il s'est toujours interrogé sur le témoignage et particulièrement sur la photographie comme langage universel du témoignage. Je pense qu'il a essayé de trouver lui-même une réponse à ces interrogations avec les passagers du Roissy Express, cette traversée de la banlieue nord à la banlieue sud de Paris, en compagnie de la photographe Anaïck Franz, dont témoignage par les mots, témoignage par la photo, et puis avec Balkan Transit, traversée des Balkans par les mots et par les photographies de Claudie Sloban.
C'est difficile d'imaginer à quel point ce voyage sur la ligne B du RER était un beau voyage.
François Maspero, 2006.
J'ai connu Anaïck Franz avec qui j'ai tout partagé sur ce plan du voyage, c'est-à-dire que nous étions vraiment égaux dans le livre, dans la manière de concevoir le livre. Nous avons fait ce voyage en 89 dans une banlieue où nous étions à l'aise et où tous les espoirs étaient permis. C'était une époque où les grands frères se félicitaient de ce que leurs plus jeunes frères auraient une vie facile, où les enfants qui sortaient des lycées, des banlieues, étaient des enfants bien élevés. C'était des années où les choses étaient déjà très dures, hein, parce que déjà on refoulait le trafic de drogue de Paris, on le refoulait dans les périphéries, parce que les gens qui n'avaient plus de quoi payer les loyers, les logements sociaux, on les renvoyait aux frontières de la région. C'était déjà des années très difficiles, mais on avait l'impression qu'il y avait tant de possibles. Et on s'est conduit d'une manière tellement ignoble dans les années qui ont suivi, en niant complètement toutes ces possibilités pour arriver à la répression, avec des découvertes à chaque station de l'histoire du pays, de la région, des gens qui habitaient là, des familles qui habitaient là depuis plusieurs, quelquefois des siècles, et puis des gens qui étaient arrivés 5 ans plus tôt, et chacun avait son histoire à raconter et des histoires qui pouvaient être très belles. J'ai eu la chance de connaître des photographes. Ils m'ont appris ce que c'est que cette photographie-là, qui n'est pas la photographie de reportage direct, qui n'est pas non plus la photographie du portrait, mais qui est la photographie d'essayer de saisir de l'insaisissable de la rencontre, et qui est un art qui est fait d'inquiétude, toujours l'inquiétude. Je suis probablement quelqu'un d'inquiet, mais je pense qu'un homme qui ne sait pas ce que c'est que l'inquiétude ne m'intéresse pas. Après un troisième ou quatrième voyage dans les Balkans, puisque je voulais écrire cette traversée des Balkans, ça se passait en 90, c'est-à-dire dès avant la guerre de Yougoslavie, un jour à Skopje, dans une rue de Skopje, j'ai rencontré un photographe qui s'appelle Claudie Sloban, qui est devenu un grand photographe. Et j'ai eu la chance de devenir son ami et de pouvoir résumer les 5 voyages que j'ai faits dans cette traversée des Balkans, de l'Albanie jusqu'au la frontière de l'Ukraine et de la Moldavie, de résumer tous mes voyages dans un seul voyage que j'ai fait avec Claudie Sloban. Et puis ils m'ont appris ce que c'est que cette photographie-là, qui n'est pas la photographie de reportage direct, qui n'est pas non plus la photographie du portrait, mais qui est la photographie d'essayer de saisir de l'insaisissable, de la rencontre.
Je ne connaissais pas François avant. Je connaissais l'homme, je ne suis pas non plus de cette génération qui a été biberonnée au Maspero. Je n'étais pas un élève, je n'étais pas un disciple, je n'étais pas un fils. Nous étions 2 compagnons de voyage.
Regard patient, refus de l'immédiat, du choc de l'événement. Immersion dans une réalité où se mêlent l'attente et l'espoir. La paix du jour et la menace du lendemain. Il y a quelque chose aux frontières qui traverse en tous sens les Balkans, au point que l'on a parfois l'impression que les Balkans sont un grand réseau cancéreux de frontières et particulièrement dans l'ex-Yougoslavie pulvérisée. Quelque chose qui parle de paix rêvée et de mort latente. Une mort qui me fait penser au suicide de Walter Benjamin, arrivé au bout du chemin à la frontière espagnole. Et je crois que c'est cela, entre autres, qui filtre des photos de Claudie Sloban. Claudie est né français, né en France, de parents slovènes. Jusqu'à l'âge de 7 ans et demi, il a été élevé en pays slovène, tandis que ses parents travaillaient en région parisienne. Ses photos parlent de mort, parce que la mort plane, mais elle la conjure en même temps, parce qu'elle parle aussi de vie, d'êtres humains, de terre, et de ce qui attache ces êtres humains à cette terre, ce qu'ils y ont construit, à l'image des personnages d'Ivo Andrić. D'êtres humains qui veulent, malgré l'oubli ou le mépris du monde, vivre. L'unité perdue des Balkans est peut-être comme celle de l'espèce humaine, une vue de l'esprit. Mais peut-on, faut-il encore vivre si l'on renonce définitivement à la rêver ? Balkans Transit, 1997.
Ce qui nous liait dans la manière de bouger physiquement, c'était cette possibilité de se tromper.
Claudis Luban, photographe.
Lorsqu'on va démontrer sur le terrain quelque chose que l'on sait déjà au préalable, c'est extrêmement facile. Il faut juste trouver, je dirais, les paramètres adéquats. Tandis que là, le questionnement de François était beaucoup plus vaste, puisque ça englobait tout de même ce questionnement sur sa famille, sur son rapport à l'histoire, la grande histoire. Et il a voulu physiquement étendre son parcours vers les Balkans de manière intellectuelle, mais justement comme un intellectuel qui se déplace, comme un intellectuel qui va voir sur place. On était quand même en 95. La Yougoslavie n'existait plus depuis 91. Moi, je revenais tout de même de un an et demi de parcours candide à travers la guerre dans ces petits états qui commençaient à naître. Je me suis promené, je dirais, mais vraiment promené pour comprendre voilà, comment une guerre peut éclater, pourquoi un voisin prend son fusil et va tuer son voisin. Parce qu'il y en a un qui dit « et », l'autre qui dit « yé », et ça suffit pour aller le tuer. Pour nous, c'était aussi un lien. On connaît l'histoire de la famille de François, mais je sais que François, il me posait beaucoup de questions, nous en parlions beaucoup. Ma famille, toute ma famille, a été très engagée durant la Seconde Guerre mondiale. Mon grand-père est mort les armes à la main, en luttant contre l'occupant. Toute ma famille a vécu réfugiée dans la forêt pendant 5 ans parce que c'était des partisans engagés. Et je pense que cela crée un lien fort. L'expérience que nous avons eue, on va dire deux solitaires voyageant ensemble, c'était tellement un pari risqué au départ. C'est impossible de voyager à deux. C'est impossible. Le rythme du voyage est pour moi la raison pour laquelle c'est impossible de voyager à deux. Parce qu'un photographe, ça a à peu près la piste d'un chien qui renifle à peu près tout ce qui lui semble intéressant. Et donc, ce sont des zigzags dans tous les sens. Et un écrivain, ça reste la plupart du temps dans sa chambre. Et c'est là où c'était, je dirais, cette magie de la rencontre. Il y a une photo où François, soudain, en Albanie, s'arrête comme ça. Il avait toujours, bien sûr, son petit carnet. Il y avait les gens qui passaient. Il est dans son monde et il écrit ici. Il prend des notes. Et ça, c'est vraiment parce que le photographe, il bouge d'une certaine manière. Mais là, en l'occurrence, l'écrivain, il bougeait plus à la manière d'un photographe que à la manière d'un journaliste, écrivain. En tout cas, François avait la même quête que moi. À aucun moment il n'y a eu d'incident ou de malaise dans le voyage où l'un souffre de la présence de l'autre. Et ça a été possible grâce au silence. Parfois, ça arrivait, 2 jours sans parler, puis ça ne voulait pas dire on marchait ensemble, on mangeait, on allait se coucher, mais on n'avait pas besoin de parler. On ne se forçait pas. Dans la postface de Balkans Transit, il dit... questionner l'histoire, mais quand on n'est pas historien, c'est... Qu'est-ce que c'est ? C'est être un usurpateur. Et en même temps, si on ne le fait pas, est-ce qu'on reste innocent ? Enfin, il se posait en permanence cette question du spécialiste. Et chaque paysage que nous traversions, où que ce soit, il en avait tout d'abord une lecture géographique. Les frontières, je ne sais pas si elles ont un sens, mais la géographie, elle peut donner une lecture qui permet de comprendre autrement l'histoire.
Fidel Castro est là, devant moi. Écoutez les cris. Il est en train de parler. Voilà, il commence à parler.
En 1999, François Maspero se voit confié par Edoui Plenel, alors directeur de la rédaction du journal Le Monde, une série sur Cuba avec des photos de Claudis Luban.
99, François fait ce retour à Cuba. Et au moins, ce qui m'avait frappé, en fait, c'est que d'autres qui auraient l'histoire de François Maspero, ils auraient fait un voyage en allant voir des noms, des contacts, des personnalités. Après tout, c'était l'éditeur de la Tricontinentale, l'organisation, voilà, qui était lancée autour de la Révolution cubaine. Eh bien non, François, il va prendre le bus, il va faire le promeneur. Donc moi, le souvenir que j'en ai, c'est ce François qui affronte sans aigreur, sans mesquinerie, mais sans biaiser, sans se dérober, ce qu'il faut revisiter de ses engagements. Et sans que ce rapport-là soit un rapport qui oblige à se flageller ou à se renier.
Et là, ça a été un voyage qui n'a absolument rien à voir avec les Balkans, parce que là, je sentais que François retournait en un lieu de son passé, d'une lutte qui a mal, vraiment mal terminé, selon ses propres mots. Et là, c'était très, très difficile parce que François il aurait pu rencontrer beaucoup de monde, il ne voulait rencontrer personne. Il aurait pu rencontrer Fidel Castro, il ne voulait absolument pas. Il a juste rencontré un poète à La Havane. Et après, nous sommes tout de suite partis bus et nous avons tracé à travers tout Cuba. Chaque soir, François écrivait, donc il prenait vraiment énormément de notes. Et il a dit, tout le temps, il était en train de dire, mais ça sert à rien ce que je fais, c'est vraiment, pourquoi je prends des notes alors que c'est nul, c'est tellement nul. Et après, bien sûr, quand il écrivait ou Malcolm Transit ou les livres, il disait, heureusement que j'ai pris des notes, ah si j'avais pas pris ces notes. Donc je le laissais aussi, et il fallait pas que je sorte de la chambre, parce que souvent après, on dormait dans la même chambre, deux lits les plus loin l'un de l'autre. Ça le rassurait, le fait que je sois là et qu'il écrive à sa table. Et j'aime bien me lever le matin, sortir, et je me lève, je mets l'appareil autour du cou et je sors. Je sortais un peu avant le lever du jour et je marchais, et je revenais en général vers les 9h. Et en fait, très souvent, je trouvais François habillé comme ça, couché sur le lit, regardant le plafond, les mains sous la tête, et en fait, il pleurait. C'était une telle souffrance pour lui de voir ce qu'était devenu Cuba, pour la simple raison qu'il aimait tellement aussi le peuple cubain. Et j'arrivais entre 8-9 heures du matin, et puis après, on partait ensemble. Et une fois, je suis arrivé un peu plus tard, donc silence, et quand je dis « bon, on y va, François. » François a juste dit « Ne me refaites plus jamais ça. » Et donc, du coup, je ne suis plus jamais revenu à 10h30. Mais... En fait, nous avions besoin l'un de l'autre quand nous voyagions. Oui, en tout cas, moi, je n'ai jamais eu de relation aussi forte avec quelqu'un qui a eu des vies aussi multiples. Mais en même temps, François me racontait comment, avec Fontita, il s'était allé à Cuba traduire le journal du Che. Fidel ne voulait absolument pas lâcher le journal, donc il ne pouvait le traduire que, enfin, près du Che, en fait. Castro ne voulait pas que quelqu'un touche au texte sans qu'il soit à côté. Le voyage de Cuba était en fait impossible pour François, parce que retourner à Cuba après tous les espoirs, après tout ce qui avait été investi dans cette révolution, c'était quand même une volonté de changer le monde et voir ce qu'il en était advenu, ce système qui fonctionnait à deux niveaux. François le savait, mais de le vivre au présent, c'était encore plus difficile.
J'ai traduit de la poésie au fil du temps. Elle m'a aidé à vivre. Il est des moments où tenter de traduire un poème est aussi salvateur que de déchiffrer une sonate au piano. Et cela, même si l'on est un médiocre interprète. Traduire la poésie est une démarche amoureuse. Contre la mort. Au poème d'amour dans le sens courant du terme, j'ai préféré ceux qui évoquent la découverte éternelle du monde. Poésie de l'émerveillement, de l'inquiétude, de la lassitude ou du désespoir, devant ce que l'on appelle la création, et qui, d'Homère à Char, jaillit et coule comme l'eau de la source de Jean de la Croix. Poésie de la lumière éblouissante et des ténèbres angoissantes, sur l'âpre limite qui sépare la plénitude physique et le néant métaphysique, l'Ulysse de Dante qui sauva Primo Levi à Auschwitz, le vice absurde qui ne sauva pas Pavese du suicide, la pluie d'automne qui baigna l'exil de Vallejo, la douceur maritime qui berça la nostalgie d'Esprit. Transit et compagnie, 2004.
Il racontait ses histoires au fur et à mesure, tout simplement, de la manière dont cela venait. Et c'est vrai qu'il y a des moments où je m'apercevais qu'il a fait beaucoup de choses dans le sens... Il en a fait beaucoup plus que ce que l'on sait, que ce que l'on en dit. Il a été tellement engagé, tellement à fond, et toujours avec cette autocritique de soi-même, en permanence. Je dirais, il ne faut surtout pas imaginer des voyages avec un intellectuel chiant. C'était des voyages avec une personne d'une rare générosité, torturée, qui luttait en permanence pour sortir de tout cela, et qui, dès qu'il était de nouveau comme ça, face à la vie, il aimait la vie. Il aimait le côté juteux de la vie. Et le fait d'avoir voyagé avec ce François-là, j'ai pu voir de nouveau l'homme qui est en permanence au présent.
Moi, je ne crois pas à la fin du temps. Puisse-t-il seulement, le temps, malgré l'usure des ans, me laisser, nous laisser à tous, de quoi nous imprégner encore des paysages humains. Seulement il faut se hâter, car il se fait tard et déjà le jour baisse. Le soleil bas, glissant sous les nuages, est venu frapper à la fenêtre en face de moi. Le vent, dans les branches des tilleuls, fait jouer sur la table des taches de lumière capricieuses qui m'aveuglent. Plutôt que de fermer les volets, mieux vaut sortir dans la cour où les herbes folles commencent d'affleurer entre les pavés et respirer un bon coup. Libre, puisque c'est mon immense chance, dans le froid du printemps tardif. Et sans tristesse, s'il se peut.
Une vie, une œuvre, François Maspero, passeur de présent. Un documentaire d'Élise Gruot, réalisé par Annabelle Brouard. Mixage Bernard Laniel. Texte lu par Estelle Clément-Béalem et Xavier Xapla. Prise de son Bernard Laniel, Pierre Monteil, Julie Garraud et Yann Fraisse. Avec Michel Piccoli, Françoise Morvan, Julien Hage, Edoui Plenel, François Gèze et Claudice Louban. Merci à Bruno Guichard, Yves Campagna et Jean-François Reynaud pour les extraits de leur film François Maspero, Les chemins de la liberté.
C'était Une vie, une œuvre, une émission proposée par Perrine Kervran avec Claire Poinsignon. Bibliographie, liens, réécoute, podcasts et commentaires, c'est sur la page de l'émission sur le site de France Culture. Retrouvez-nous aussi sur Facebook et Twitter. Et la semaine prochaine, nous serons avec celui qui était le roi des tragédiens et l'historien du roi, Racine. Mais dans un instant, on retrouve Christophe Onodibio et le temps des écrivains.